Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous êtes sur France Culture et c'est le troisième volet de notre série dans Matière à penser de cinéma et médecine. Nous partons donc d'un film pour l'étendre à un point de vue médical. Et ce film, c'est Les Chatouilles de Andréa Bescon et Eric Métayer. Odette a 8 ans et nous allons voir ce qui va lui arriver. Et pour cela, avec le critique Louis Guichard et Caroline Eliachev, pédopsychiatre et psychanalyste.
Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile.
Un petit Odette. Je t'aime,
Jeanne. C'est incroyable, c'est Gilbert.
T'oublie pas, c'est Gilbert qui vient me chercher.
Gilbert ?
C'est Gilbert. Il part à la montagne, il propose d'emmener Odette.
On va demander à Odette.
Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle.
Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne.
Vos parents n'ont jamais eu de doute.
Ah non, se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance.
On parle pas beaucoup, vous savez. Je danse.
Comment tu t'appelles, toi ?
Odette.
T'as pas respecté ta mère, toi, merde !
Manu, c'est mon meilleur ami.
Mais c'est quoi ton délire avec la psy, là ?
Il est déjà 18h05.
Ok, il y a un obèse qui s'impatiente ?
Il y a pas de petite douleur, Odette.
Je déconne.
Puis, face à l'amour, vous vous figez.
J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme.
Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses.
Non, c'est un conte de fées, ça.
Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé.
Vous croyez que je vais aller détruire la vie de mes parents alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille.
Et ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une tioque là, mais regarde, ça t'a mis la rage.
Pourquoi tu m'as rien dit ?
Je sais pas.
Comment ça, tu sais pas ?
Je sais pas.
Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte.
Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant.
Voilà, donc la bande-annonce du film Les Chatouilles, vous avez compris le thème de ce film, mais nous allons parler un peu cinéma avec Louis Guichard, avant d'aborder avec Caroline Eliachev le fond de la problématique qui est posée dans cette relation adulte-enfant. Louis Guichard, ce film vous a surpris ?
Oui, il y a d'abord eu un spectacle auparavant, un spectacle seul en scène que Andréa Bescon avait écrit et joué toute seule. Ça veut dire qu'elle jouait tous les personnages sur scène. Et ce film en est l'adaptation qui, d'un point de vue cinématographique, peut se discuter, mais qui relate de façon très frontale les agressions sexuelles pédophiles dont elle a été la victime sur
elle-même.
Une longue période, elle-même, de la part d'un proche de ses parents pendant son enfance. S'il faut faire des reproches au film d'un point de vue cinématographique, c'est peut-être, de mon point de vue, parce que la douleur, l'amertume est encore tellement vive que le film est très centré sur son personnage, qui est un personnage fort dans le film. Elle joue son propre rôle. Alors que les autres personnages sont relégués dans les marges, je trouve, du film et du regard, et parfois au détriment de l'ensemble. Mais encore une fois, c'est presque une première dans le cinéma français d'aborder de manière aussi frontale une question essentielle. Et je dirais que le film s'inscrit de ce point de vue dans une vague, puisque à la même époque est sorti à l'automne 2018 est sorti en salle Un amour impossible, adaptation du livre de Christine Angot. Et on sait que le thème de toute l'œuvre de Christine Angot, c'est l'inceste pédophile dont elle a été victime de la part de son propre père, donc. Et puis quelques mois après, la sortie en salle de Grâce à Dieu de François Ozon, où cette fois il s'agissait de la pédophilie à grande échelle commise par le père Prénat à Lyon pendant des années sur de jeunes scouts enfants. Donc Les Chatouilles, de ce point de vue-là, est un film signal au milieu d'une époque qui est celle de la libération de la parole sur ces sujets et les sujets voisins.
Oui, il y a un autre film aussi qui est Spotlight, qui était plutôt une enquête qui est menée sur l'institution.
C'est quelques années avant. C'est vrai que ça relatait là aussi, on est aux États-Unis, une affaire de pédophilie à grande échelle commise par les prêtres.
Et je crois que Caroline Hélacher, vous m'aviez dit que la pièce vous avait beaucoup plu, et beaucoup moins le film.
J'ai adoré la pièce où il y avait de l'humour aussi. Et effectivement, je trouvais la pièce beaucoup plus forte que le film, avec une actrice exceptionnelle sur scène. Également, sur la position des autres personnages, de la mère en particulier, il était beaucoup plus net dans la pièce que la mère était complice, alors que dans le film, on la voit d'une certaine manière complice, mais surtout soucieuse du qu'en dira-t-on. Voilà, j'ai trouvé la pièce beaucoup plus forte que le film, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le film s'inscrit dans une série qui montre que ce sujet est devenu un sujet de société dont le cinéma s'est emparé.
Alors, c'est sûr que ce phénomène de société, il a une histoire. Je veux dire par là que, en regardant le film et en relisant un peu, je me suis rendu compte comment, pendant une période, en particulier la période de 60-70, la pédophilie était... Enfin, il y avait des mouvements qui étaient
pro-pédophiles,
tout à fait. Parler clair.
Alors, ça n'a pas duré longtemps. Alors, la pédophilie a une histoire. Ça n'a pas duré longtemps. Ce mouvement était soutenu, on va dire, par des intellectuels dont certains étaient pédophiles. Voilà, ils ont essayé de montrer que, en fait, c'était une initiation tout à fait... non seulement normal, mais souhaitable pour les jeunes, etc. Encore une fois, ça n'a pas duré longtemps. Ça a changé, ça a tourné assez rapidement avec l'idée de la prise en compte de la souffrance des enfants. C'est ça qui a fait basculer. C'est-à-dire, il s'agissait de personnes adultes qui considéraient qu'ils initiaient les enfants, etc., etc., sans tenir compte, sans apprécier ce que ça pouvait avoir de ravageur pour les enfants. À partir du moment où la notion de l'enfant a basculé, on va dire, et la prise en compte de la souffrance que ça pouvait provoquer chez les enfants, voilà, l'opinion, on va dire, a basculé. Mais avant, c'était non seulement toléré, mais considéré comme non pas normal, mais quand même.
Non, mais il y avait une tolérance qui existait dans la société, en particulier aux Pays-Bas. Je dirais, il y avait une association néerlandaise avec Edouard Bromsema, un nom bizarre, qui s'est suicidé à la fin, mais enfin, je veux dire, qui prônait effectivement la liberté. Alors, c'était aussi dans un mouvement où tout était remis en question.
Voilà, absolument.
Et c'était aussi l'antipsychiatrie, il y avait aussi tout un mouvement de remise en question. Mais c'était toujours au profit de celui qui bénéficiait
de
ses actes, enfin qui était censé
prétendait et je trouve que c'est abordé aussi discrètement dans le film, qui prétendait que l'enfant finalement il trouvait son compte, hein, puisque
c'était même un développement,
hein. Voilà, c'est ça, et que ce moment de plaisir pris par l'adulte aurait été partagé par l'enfant. C'est suggéré dans le film constamment.
Oui, c'est ce que disent tous les pédophiles. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, d'une part, vient l'exciter, d'une certaine manière, et que donc il répond à... c'est ce que tous les pédophiles disent. Hein. C'est aussi ce que disent les hommes violents par rapport aux femmes. Elle est venue me provoquer, c'est moi qui ai répondu, etc., etc. Alors, effectivement, les choses ont heureusement changé. Et ce qui crée le moment de bascule, c'est la prise en compte de la souffrance de l'enfant.
Alors il y a ce sujet, d'ailleurs, on est en 1995, et il y a une émission qui s'appelle « À bas les masques », et pour la première fois, c'est Anne-Claude Ambroise Rendu qui va donner la parole aux enfants, enfin qui ont grandi, mais qui s'expriment sur leur souffrance. Jusqu'à là, effectivement, on parle que des acteurs adultes et pas des enfants.
Absolument.
Qui sont censés en bénéficier. Hein. Donc, alors, c'est vrai qu'on a eu quand même aussi toute une littérature avec Monterland, avec Perfit, avec Gide, avec Maznev, je dirais, qui était très ouverte sur cette question problématique. Aujourd'hui, on voit mal un Prix Médicis qui a été Non, mais c'est comme ça, hein, je veux dire. Tony Duvert a eu le prix Médicis en 1973. Il ne se cachait pas de cette attirance. Hein, donc aujourd'hui,
Et il était soutenu par tout un milieu intellectuel qui adhérait à ses idées. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'il y a eu une acmé. D'abord, c'était extrêmement toléré. Ensuite, il y a eu ce mouvement intellectuel qui a duré, je sais pas, une quinzaine d'années. Mmh. Et puis ensuite, au contraire, aujourd'hui, la figure du pédophile est ce qu'il y a de plus redouté dans la société. Il y a trois figures redoutées. Il y a le pédophile, le terroriste et l'adolescent délinquant.
Ça existe toujours. Alors, il y a eu des procès retentissants. Il y a eu l'affaire Dutroux. Je veux dire, il y a eu d'autres, même Fourniret récemment.
Je pense qu'il ne faut pas confondre quand même le pédophile et la personne qui assassine les enfants. C'est pas tout à fait la même chose de violer un enfant et de le tuer. Je crois qu'il y a quand même l'affaire Dutroux, l'affaire Fourniret, c'est assez emblématique et en même temps je pense qu'il ne faut pas tout confondre parce que ce sont des personnes exceptionnelles qui tuent les enfants, donc ce sont pour moi avant tout des criminels, avant d'être des pédophiles, d'une part, et d'autre part, la pédophilie courante entre guillemets est majoritairement intrafamiliale ou dans l'entourage de la famille. Je pense que c'est pas tout à fait les mêmes personnages. On parle énormément des pédocriminels, mais il y a quand même une différence de degré entre quelqu'un qui séquestre des jeunes filles et qui va les tuer à répétition. Ce sont des tueurs à répétition. C'est pas la figure du pédophile courant entre guillemets.
C'est vrai, mais en plus quand on regarde justement cette période d'ouverture par rapport à la pédophilie qui avait pignon sur rue, on voit aussi que les acteurs finissent très mal, hein. Ils finissent condamnés les uns les autres. Je vais pas prendre toute la liste parce que il y a souvent des frontières. Je dis pas que c'est des meurtriers, hein. Vous avez raison d'insister comme ça, Caroline Eliachef, mais je dirais que la criminalité de la pédophilie avec la prostitution enfantine, avec le marchandage, il y a des liens, de dérive entre un sentiment qui peut exister, le passage à l'action et puis ce qui en découle dans l'organisation de la prostitution enfantine, par exemple, pour prendre ça.
Et effectivement, la prostitution enfantine fait partie des atteintes sexuelles gravement punies. Si on part du film, hein, c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit.
Non, on est dans l'intrafamilial, dans l'intimisme. Voilà. Évidemment, il y a une question qui se pose et qu'on a envie de vous poser en tant que psychanalyste et pédopsychiatre. Comment déceler chez un enfant un trouble qui devrait évoquer, pas forcément ça, mais qui devrait évoquer qu'il y a un vrai malaise, quoi.
Parce qu'on voit une enfant murée dans son silence, qui ne peut se confier à personne. Et c'est vrai que Caroline Eliachef disait que désormais on prenait en compte la souffrance des enfants. Mais se pose aussi, quelle est la question suivante, quel est leur espace de parole? À quel moment ils peuvent raconter ce qui leur arrive?
Parlons de la parole des enfants.
La situation est complexe. La prise en compte de la parole des enfants, elle existe aujourd'hui. On écoute les enfants, mais ce qu'ils disent est parfois extrêmement difficile à interpréter. Un enfant qui parle, d'une façon générale, ne parle pas pour dire la vérité. Un enfant parle pour être en communication avec les autres. Dans le cas, par exemple, du film, c'est très intéressant parce que vous dites, elle est murée dans son silence. Autrement dit, elle ne va pas trouver ses parents et lui dire, le monsieur me fait des chatouilles, etc., etc. Mais elle dit quelque chose. À un moment, elle dit, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. C'est tout ce qu'elle dit. C'est pas grand chose. Mais cette parole-là n'est absolument pas prise en compte. Donc, parfois, les enfants envoient des signes qui sont des signes qui peuvent être interprétés de toutes sortes de façons, parce que on peut pas tirer la conclusion parce qu'elle mais pour elle, pour un enfant de cet âge, elle a parlé, elle a dit je ne veux pas y aller. À partir du moment où elle n'a pas été prise en compte, du coup elle se mure dans son silence, puisque quand elle pense qu'elle a parlé, elle n'est pas écoutée. Voilà. Il y a d'autres enfants qui disent les choses plus nettement, et le plus souvent, il faut un facteur déclenchant. Par exemple, ce facteur déclenchant peut être dans les écoles où on passe des petits films pour expliquer aux enfants ton corps t'appartient, etc., etc. Le plus fréquent après le passage de ces petits films, c'est qu'un ou deux enfants viennent voir la maîtresse, par exemple, et disent quelque chose. À ce moment-là, leur parole est prise en compte. Mais encore une fois, un enfant ne parle pas pour dire la vérité, il parle pour dire quelque chose. En particulier des enfants qui seraient abusés par leurs parents, il arrive qu'ils désignent quelqu'un d'autre pour protéger leurs parents. Donc il est toujours extrêmement difficile d'interpréter la parole des enfants. Certains enfants ne disent absolument rien. Absolument rien. On ne peut rien déceler avec toute l'expérience qu'on peut avoir, etc., etc. Et donc, ce sont des sujets où on sait, nous, professionnels, que pendant toute notre carrière, alors qu'on est averti, alors qu'on connaît les choses, on est soumis à une sous-estimation ou à une surestimation. Donc, notre travail est compliqué. Il est parfois d'autant plus compliqué que lorsqu'un enfant parle, il vient pas parler au psy, il parle à la personne de service, il parle à la maîtresse, il parle à quelqu'un de sa famille, etc. Et à ce moment-là, il est interrogé et mal interrogé. Il est suggestionné. Un exemple, une mère de famille voit que son enfant a une irritation au niveau de l'anus et lui dit « Est-ce que ton papa a mis son zizi là ?» Et l'enfant est absolument sidéré par la question et il dit oui. La mère se précipite au commissariat. Voilà, donc l'enfant a déjà été suggestionné, il sait que s'il dit oui, il fait plaisir à sa mère, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Voilà. Mais encore une fois aujourd'hui, oui, la parole de l'enfant est prise en compte, mais il ne faut pas non plus idéaliser la parole de l'enfant. Les enfants disent toujours la vérité, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que, heureusement, dans le développement d'un enfant, la possibilité de pouvoir mentir c'est bien de pouvoir mentir. Ça veut dire que, on sait que l'adulte ne vous transperce pas, ne lit pas dans vos pensées. Voilà. Toute la question, quand les enfants mentent, est de leur offrir une porte de sortie acceptable pour effectivement ne pas les enfermer dans un discours qui serait faux. Nous avons aussi quelques critères concernant l'âge. Des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, on ne met absolument pas en doute leurs paroles. Pratiquement jamais. Ce que l'on peut discuter avec l'enfant, c'est la personne qu'il désigne. Il ne désigne pas toujours la bonne personne pour protéger ses parents, pour protéger quelqu'un d'autre, etc. À partir de 7-8 ans, on peut discuter et ne pas enfermer l'enfant qui se serait engagé dans un éventuel mensonge et dont il faudrait le faire sortir.
Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je je vais vous aimer. Un peu de sel dans la mer ne changera rien. On s'adore, on s'enterre, on trouve une main et on serre. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Voilà, Le Bonheur, chanté par Berry, en tant qu'illustration, on va dire, du film dont nous discutons avec Louis Guichard et Caroline Eliachef, Les Chatouilles, qui traite donc de la pédophilie, pour rappeler les choses très clairement. Il y a dans beaucoup de questions qui se posent à notre société aujourd'hui, donc l'écoute des enfants, Caroline Eliachef vient d'en parler dans la première partie de cette émission. Comment peut-on, pourrait-on détecter, je dirais, des mal-êtres qui peuvent être en rapport avec cette agression? Il y a aussi d'autres questions, et Louis Guichard voulait intervenir.
Oui, en effet, moi, il y a deux aspects du film qui appellent pour moi des éclairages, si possible, de Caroline Eliachef. C'est d'une part la complicité supposée de la mère, ou en tout cas sa passivité vraiment suspecte. Je trouve que c'est le personnage qui est le plus chargé dans le film. C'est un personnage extrêmement dur, extrêmement négatif. On lui voit pas vraiment les excuses qu'elle a sans doute, les excuses sociologiques ou sociales qu'elle a. Donc, est-ce que dans ces cas, et c'est aussi le cas d'ailleurs dans le film adapté de Christine Angot, Un amour impossible, on voit la mère vraiment presque complice de ce qui se passe, tout en le réprouvant. Et d'autre part, ben, l'articulation entre le processus de psychologie, de psychothérapie ou de psychanalyse. Là aussi, je trouve que ça serait bien que Caroline Eliachef dise de quoi il s'agit dans le film, parce que c'est pas évident. Est-ce qu'elle est en train de faire une analyse ou une psychothérapie? Et deuxièmement, comment ça s'articule avec le dépôt de la plainte qui, à la fin du film, intervient comme si c'était finalement le point final de cette douleur.
Alors,
première question, donc la complicité de la mère. Alors, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Mère complice, en particulier dans les affaires d'inceste. Mère complice. Là aussi, dans cette affaire-là. Alors, dans la pièce, la mère était encore plus complice, on va dire. Alors, ce qu'on trouve également quand on parle avec ces femmes, c'est que le plus souvent, elles ont elles-mêmes été victimes d'atteintes sexuelles. C'est pas pour les excuser. Elles n'ont pas su protéger leur enfant. Au contraire, elles ont exposé leurs enfants. Mais il n'empêche que, dans la très grande majorité des cas, elles ont elles-mêmes été abusées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour les générations futures, il est essentiel que les enfants abusés soient traités, pour que justement ce silence ne soit plus un silence et qu'il ne soit pas nécessaire à la génération suivante d'exposer leurs propres enfants pour faire savoir d'une certaine manière qu'elles ont été abusées. Et encore une fois, c'est pas pour innocenter ou défendre les mères, mais c'est pour essayer expliciter, de comprendre ce qui se passe. Je précise que du côté des hommes, c'est la même chose. Quand vous recevez un garçon abusé, familialement ou pas familialement, et que vous prenez les pères à part et que vous leur demandez qu'est-ce qui vous est arrivé à l'âge qu'a votre fils aujourd'hui. Dans beaucoup de cas, les hommes s'effondrent et racontent que à l'âge qu'a leur fils aujourd'hui, il leur est arrivé la même chose. Voilà, donc ça c'est une première chose, et c'est un élément clinique qu'il faut avoir en tête, et surtout comprendre donc la nécessité de traiter ces enfants pour que ça continue pas, pour arrêter ce cycle infernal. Alors les traitements
pour l'enfant.
Les traitements pour
l'enfant. Parce qu'il y a les traitements pour l'enfant, les traitements pour le pédophile. Qu'on fait?
On parle de l'enfant. Plusieurs sortes de traitements sont possibles, c'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas besoin d'une psychothérapie. Je pense que tous les enfants ont besoin d'un entretien avec quelqu'un qui est formé. Et qu'on peut apprécier avec l'enfant s'il a besoin à ce moment-là de parler, ou plus tard, parce qu'on peut aussi respecter le fait qu'il ne veuille pas en parler, et surtout, considérer qu'un enfant qui vient en psychothérapie, après ce genre de traumatisme, n'est pas réduit à son traumatisme. Un enfant vient, c'est une personne qui vient. On va parler éventuellement du traumatisme s'il veut en parler, mais il a existé avant. Et il va exister après. Et je pense qu'il n'y a pas à se centrer absolument uniquement sur le traumatisme. Alors, il y a aussi d'autres techniques pour les plus grands. Il y a le MDR, éventuellement.
Enfin,
il y a un traitement qui existe maintenant depuis un certain temps. Le mouvement des yeux qui permet de recaler un petit peu cérébralement le traumatisme, que l'on utilise pour les traumatismes de guerre, que l'on utilise pour les traumatismes liés à des catastrophes naturel et qui fonctionne également pour les traumatismes sexuels, les viols, etc., etc. Vous avez l'hypnose, vous avez toutes sortes de possibilités que l'on va adapter à l'âge et à la personne de l'enfant. Voilà. Donc il s'agit pas seulement de parler. De lancer une parole à la société. Hein, il faut encore que cette parole soit écoutée, remise dans un contexte, etc., etc. Voilà, on s'en sort. Hein.
Cette parole, donc difficile peut-être au moment de l'enfant, vous l'avez très bien expliqué avec le respect aussi des silences, qui ressort à l'âge adulte, et on le voit là avec la plainte qui est déposée. Je reprends un peu ce que disait Guichard.
On n'a peut-être pas assez souligné que le film est en plusieurs époques, en fait, hein, puisqu'on voit un mélange du passé et du présent, de l'imaginaire et du réel, et notamment, on voit une femme se débattre avec ce problème parce qu'elle n'en a pas parlé quand elle était enfant, et c'est adulte qu'elle fait qu'elle suit une psychanalyse ou une psychothérapie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et on voit ça pour toutes les personnes qui parlent aujourd'hui, c'est qu'il faut un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant dans le film, c'est que l'homme qui l'a agressé devient grand-père, donc il y a une petite fille, et elle imagine immédiatement que cette petite fille va subir la même chose qu'elle. Et elle a probablement raison d'ailleurs. Très souvent, le facteur déclenchant, c'est lorsqu'un autre enfant dans une famille ou dans un entourage, est susceptible de subir la même chose, un petit frère, une petite sœur, etc. Et à ce moment-là, la personne qui est devenue adulte parle. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société, par exemple, quand Adèle Haenel parle, elle dit « le facteur déclenchant, c'est le film que j'ai vu sur Michael Jackson ». Pour d'autres, le facteur déclenchant, c'est MeToo, c'est l'affaire Weinstein.
Et pour rebondir sur ce que vous dites, Caroline, le deuxième facteur déclenchant pour Adèle Haenel, c'était d'apprendre que Christophe Ruggia, le réalisateur des Diables, allait tourner la suite des Diables et reprendre les mêmes personnages et allait tourner à nouveau avec des acteurs très jeunes.
Tout à fait, mais on voit pour toutes les personnes qui parlent, il faut un facteur déclenchant. Alors dans les écoles, effectivement, pour les petits, ça peut être le film qu'on va leur passer. Il faut que quelque chose déclenche la parole.
Est-ce que vous pensez, Caroline, que la prévention peut exister, doit exister, parce que vous dites, par exemple, sur ces films qui sont passés, est-ce que c'est vraiment réalisé comme ça? Est-ce qu'il y a une éducation à...
Oui. Oui. Il y a une éducation, je pense pas qu'il y ait une éducation des pédophiles.
Non, je parle des enfants. Une éducation à se méfier d'eux.
Oui, absolument.
Non.
Absolument. Elle existe dans les familles. Les familles ont très très peur. Ça se passe dans les familles, et en même temps, les familles ont très très peur. Et donc, on dit, ton corps est à toi, on ne doit pas te toucher, etc., etc. Donc, cette prévention existe, elle peut être améliorée, elle existe dans les écoles. Les Canadiens ont beaucoup fait pour faire des films qui engagent les enfants, à parler, donc la prévention existe. Un paradoxe que je vois, un paradoxe ne signifie pas qu'il y a une relation de cause à effet. Et je constate qu'à une période où il est possible de concevoir des enfants sans désir sexuel et sans relation sexuelle, l'enfant donc désiré est devenu éminemment désirable. Encore une fois, c'est une observation et je n'en fais pas une relation de cause à effet parce que je ne sais pas. Mais c'est quand même assez curieux.
Est-ce que dans toutes les périodes, quand même, il y a eu ce mouvement qui, enfin ce mouvement, cette réalité qui
que
qui
l'enfant tourne, est désirable.
Oui, enfin qui est désiré par certains, pas par d'autres, mais enfin un pourcentage de la population qu'on estimait 1%. Je ne sais pas très bien sur quelle base on publie ça, mais enfin voilà, il y a un petit pourcentage de gens qui ont des attirances incontestables.
Tout à fait. Mais on est quand même dans une époque où, et ça c'est Garapon qui l'avait noté, où les enfants ressemble à des adultes et les adultes aspirent à, on va dire, avoir l'air de jeunes et d'enfants. Je suis pas si vieille, mais dans ma jeunesse, les petites filles portaient des sockettes blanches, des souliers vernis, les petits garçons des culottes courtes, puis les filles accédaient au soutien-gorge, les garçons accédaient aux pantalons longs. Maintenant, vous voyez des enfants très jeunes habillés exactement comme des adultes et des adultes s'habiller comme des jeunes jusqu'à un âge très avancé. Et donc, il y a une sorte d'indifférenciation générationnelle. Voilà. Et c'est une crainte dans notre société, cette indifférenciation générationnelle. Voilà. Et la pédophilie en est en quelque sorte une expression.
Pour revenir à l'enfant qui est votre terrain de professionnel,
de travail
oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez de la résilience, du mot résilience ?
Bon, alors je ne vais pas vous faire le chapelet sur la résilience, qui est un terme que je n'aime pas. En revanche, je pense que évidemment les gens peuvent s'en sortir.
Une capacité,
mais bien sûr,
à s'en sortir.
Et si vous voulez, je pense aussi que lorsque un enfant devenu adulte a parlé, comme c'est le cas aujourd'hui, il considère que le fait d'avoir parlé, le voile se déchire et il comprend tout des problèmes qu'il a, de mon point de vue, est un peu exagéré. Quel que soit le traumatisme, et ce traumatisme est difficile à apprécier parce que il y a parfois des choses qui, de l'extérieur, des attouchements qui nous paraissent pas si graves, ou des viols qui nous paraissent très graves, l'impact n'est pas toujours celui qu'on croit. L'impact n'est pas toujours celui qu'on croit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour sortir de là, il faut considérer qu'on n'est pas réduit à ce traumatisme. Voilà. Donc, on peut faire évidemment un traitement, etc., etc. Le traumatisme n'explique pas tout des problèmes que l'on a par la suite. Il peut en expliquer une partie, mais pas tout. Et je pense que c'est assez réducteur quand on entend des personnes qui disent « ben voilà, je comprends tout, hein, je peux pas faire ceci, j'ai des relations sociales comme ci, etc. etc. » Comme si l'événement, le traumatisme, avait vraiment été vraiment la personnalité elle-même. Moi, j'y crois pas. Hein, je crois que les gens ont existé avant, dans un certain milieu, et qu'ils existent après, et fait partie du traumatisme, et ça c'est très important, la réaction de l'entourage. Ça fait partie du traumatisme. On le voit pour les enfants victimes de pédophiles dans l'église. Il y a ce que les prêtres ont fait, et il y a la réaction des familles et de l'institution qui n'ont rien voulu voir. Ça c'est traumatique aussi.
Ces dernières années, ça remonte déjà quelque temps, on a plutôt découvert et remis l'existence de la sexualité infantile, qui n'était pas reconnue jusqu'à...
Oui, ça c'est Freud quand même
Justement, donc ça fait un siècle qu'on a compris quand même qu'il y avait une sexualité infantile, ce qui n'est pas une justification à quoi que ce soit, mais je veux dire...
Non, parce que cette sexualité infantile qui fait partie du développement de l'enfant doit se heurter, entre guillemets, à une chasteté de l'adulte. Mais si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui et qui est, de mon point de vue, totalement aberrant, c'est de considérer comme pédophile des jeux d'enfants de découverte sexuelle, d'enfants de 4, 5 ans, etc., etc. Ce n'est pas de la pédophilie. Il y a un enfant de 4 ans aux États-Unis qui a été condamné en 2006 parce qu'il avait posé sa main sur la cuisse d'une petite fille. Là, on est dans l'aberration. Et donc là, il y a une surestimation de ce que peuvent être les actes pédophiles. Par ailleurs, il y a quand même des adolescents qui sont devenus des prédateurs. Ça existe aussi. Là, on n'est plus tout à fait dans les jeux de découverte. Hein. Mais je crois que ce problème qui fait peur, ce problème qui est compliqué, on doit quand même y introduire de la nuance.
Nuance dans la majorité sexuelle, cette discussion qui a eu lieu encore tout récemment avec Madame Schiappa, je dirais, est-ce que, et le fait qu'en Europe, les majorités sexuelles, on va parler de leur définition, sont variables un peu?
Oui, ça varie. Alors, mais justement, c'est variable, c'est un grand foutoir, on va dire ça comme ça. La majorité sexuelle, on considère la majorité sexuelle à 15 ans.
En France,
parce que ça correspondait à l'âge auquel les filles avaient le droit de se marier. Mais, compte tenu des mariages forcés, etc., etc., maintenant, les garçons et les filles n'ont le droit de se marier qu'à 18 ans. Comme vous savez, le mariage aujourd'hui n'est pas exactement l'entrée dans la vie sexuelle comme c'était le cas autrefois. Vous voyez aussi, quand vous voyez des adolescents, que vous prenez deux adolescents de 14 ans, deux filles ou deux garçons. Une des filles est encore une petite fille à bas de poitrine, elle a pas encore, elle n'est pas pubère, et l'autre est déjà une femme. Donc c'est assez compliqué. Il y a un aspect physique et il y a un aspect psychologique. Vouloir fixer des normes est peut-être nécessaire, je ne sais pas. La liberté qu'avaient les juges d'apprécier ce qu'il en était de l'évolution...
De la liberté du consentement, puisque c'est ça qui est fondamental.
Voilà. Alors, on peut dire qu'en dessous de tel âge, il n'y a pas de consentement possible, ce que je conçois tout à fait. Une fille de 14 ans qui est amoureuse d'un garçon de 17 ans et qui ont des relations ensemble pense qu'on devrait les laisser tranquilles. Et, or, vous savez que si ce garçon a 18 ans et un jour, ça devient éventuellement un viol, puisque à cet âge-là, elle serait censée ne pas pouvoir consentir, etc., etc. Donc voilà, il y a un gros flou, il y a des lois spécifiques, il y a beaucoup de lois spécifiques, les lois qui concernent la pédophilie. Pour le moment, c'est un grand foutoir. La pédophilie en France est extrêmement réprimée, très sévèrement réprimée, et on est un des pays qui réprime le plus sévèrement la pédophilie.
J'avais envie de donner un conseil cinéma, un film indémodable sur le thème de l'inceste et de la pédophilie, c'est Podane de Jacques Demy, où l'interdit de l'inceste pédophile est énoncé par la fée des Lilas, Delphine Seyrig, à sa nièce Catherine Deneuve, et elle lui dit, elle lui chante cette chanson qui se termine régulièrement par « On ne marie pas les filles avec leur papa ». Voilà.
Mais vous avez raison d'insister là-dessus, parce que l'interdit de l'inceste aujourd'hui est très mal formulé. Il y a une espèce de vulgarisation aussi de la psychanalyse, où quand un garçon dit « je voudrais marier avec ma maman », ou la fille dit « je voudrais marier avec mon papa », on trouve ça drôle, on trouve ça c'est amusant, c'est mignon, etc., etc. Et alors, on n'a pas du tout évidemment adhérer à ça. L'interdit de l'inceste est mal formulé. Il est souvent, il y a aussi, non seulement il faut le formuler, mais il faut le vivre. C'est-à-dire, il faut que les parents soient chastes vis-à-vis de leurs enfants. Et l'inceste qui est le moins formulé, c'est l'inceste frère-sœur, qui est le plus fréquent.
Est-ce que la nudité des parents devant les enfants est un point de réflexion?
Alors, les familles sont très... Il y a différents modèles. Il y a des gens qui se montrent volontiers nus, etc. D'autres qui ont leur pudeur. Moi, j'ai pas tellement de jugement là-dessus. Il n'empêche que la nudité du parent, du point de vue de l'enfant, peut être choquante. Et en tout cas, il y a à respecter la pudeur de l'enfant. Hein. On voit assez rapidement un enfant qui veut s'habiller, qui veut pas être tout nu, etc., etc. Et il faut le respecter, de la même façon qu'on met pas le pot de chambre dans la salle à manger en disant à l'enfant que ça serait plus pratique parce que comme ça on l'a à l'œil.
dans la modernité, il faut bien dire qu'il y a aussi Internet. par rapport à la pédophilie, qui est donc pas très bloquée, hein, je dirais, puisqu'il y a des sites pédophiles qui existent et qui circulent toujours, et que vous disiez que, bon, maintenant, la pédophilie est condamnée, elle est condamnée, mais elle est passée beaucoup plus souterraine.
Tout à fait.
Hein, avec, en particulier, l'Internet. Est-ce que, à ce niveau-là, il y a des choses à faire pour bloquer? Est-ce qu'on peut bloquer? Est-ce qu'il faut bloquer?
Il me semble, alors là je suis pas très calée sur la question, mais il me semble que sur la question des sites pédophiles, il y a des gens qui s'en occupent, je crois. Et effectivement, il faut mettre en garde les enfants, certainement. Pas seulement sur les sites pédophiles. Alors, si vous voulez, avec les enfants, il faut pas leur montrer un monde où il y a des pédophiles partout, où, vous savez, quand j'étais petite, on disait, si un monsieur te...
Te donne des bonbons.
Voilà, exactement.
C'est le coup des bonbons, il y en a plus.
Alors,
bon, les magasins de bonbons
là,
sont
là, on leur dit, il faut pas prendre des bonbons parce qu'il y a du sucre. Et donc, le sucre, c'était mauvais. Mais, je veux dire, les parents sont... extrêmement attentifs à protéger leurs enfants de l'extérieur, alors que les actes pédophiles sont souvent de l'intérieur. Donc c'est là où il y a un petit problème. Mais effectivement, sur les sites pédophiles, je pense que c'est la police et la justice qui s'en occupent. Enfin, j'espère, mais je crois, oui.
Oui, je pense qu'enfin, on peut espérer tout cela. Quelques mots de conclusion, peut-être, sur ce film, et puis sur cette thématique très d'actualité. Avec ces révélations, je dirais, qui expliquent donc quand même, il y a des violences. Alors, il y a les violences sexuelles dont on vient de parler, les atteintes, les viols. Il y a aussi des violences tout court. Hein,
absolument.
On peut dire un mot sur cette situation qui est mal connue. On a beaucoup parlé des féminicides ces derniers temps. On n'a pas beaucoup parlé du fait que beaucoup d'enfants étaient victimes également.
Absolument.
De la violence.
Alors moi, j'aime pas le terme féminicide parce que en deux mots, parce que féminicide, ça voudrait dire qu'on tue toutes les femmes. Un homme qui tue une femme ne tue pas les femmes, il tue sa femme. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il ne s'agit pas pour la personne qui tue d'éradiquer les femmes. Il s'agit de tuer sa femme. Ça, c'est une première chose. Maintenant, sur les maltraitances d'une façon plus générale, on a vu dans la rue donc ce qui s'était passé tout à fait récemment pour les violences conjugales. Une femme est tuée, je crois, tous les 5 jours. Un enfant meurt tous les 5 jours dans sa famille. Et là, les hommes et les femmes sont également responsable. Donc, c'est au moins aussi important. Personne n'est descendu dans la rue pour dire ça. Donc, alors.
Mais ils n'avaient pas écouté l'émission. Maintenant, ça a
absolument
changé.
Alors, donc, il y a eu une mission sur les morts violentes d'enfants au sein de sa famille. Et c'est à la lecture de ce rapport que je vous dis ça. C'est pas quelque chose qui me passe dans la tête comme ça. Donc, effectivement, la maltraitance, c'est l'effet paradoxal, d'une certaine manière, du changement du statut de l'enfant. Le statut de l'enfant a radicalement changé et pourtant, les maltraitances n'ont pas vraiment diminué. Donc ça nous pose une question essentielle. De la même façon que le statut de la femme a changé et pourtant, les violences conjugales continuent d'augmenter. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir.
Voilà, eh bien, quelques éléments de réflexion pour les uns pour les autres que vous pourrez reprendre autant que vous voulez sur le site internet franceculture.fr, puisque c'est France Culture qui vous offre cette possibilité. Nous avons parlé du film Les Chatouilles avec Louis Guichard et Caroline Eliachef. Je vous renvoie au livre de Caroline Eliachef, À corps et à cri, être psychanalyste des tout petits. Mère-fille avec Nathalie Hennich chez Albin en 2000. Le temps des victimes en 2007 avec Daniel Soulez-Larivière. Et puis le dernier livre sur Dolto, une journée particulière, ce qui vous permettra d'avoir une vue plus générale des enfants et de l'attention qu'on doit leur porter. Merci à Catherine Denet, à Sandrine Chaperon, à Dany Journaud, Guillaume Ledu, Justine Wilde, de nous permettre cette émission. Et nous nous retrouvons le soir prochain avec un autre thème, un autre film, société, cinéma, médecine. C'est le lot de cette série que je vous invite à continuer à voir.